à des éléments qui peut trouver par rapport à ce qu'il peut voir d'une façon géographique, que ce soit les sources, les lacs, que ce soit les phénomènes géologiques, enfin qui donnent une dimension quasiment assez poétique, quoi, qui est assez bien.
C'est quoi le rapport qu'il fait?
Alors, ça fait longtemps que je l'ai lu, alors j'ai un peu le trou de mémoire, mais par exemple, il va comparer la révolte à... excuse-moi, j'ai un trou, mais j'ai la révolte à, je sais pas, aux plaques tectoniques, à ce genre de phénomènes géographiques. Enfin, il a une manière de l'illustrer qui est pas à côté de la plaque comme ça on pourrait le penser de la manière dont je l'exprime, mais un livre que sur le sujet qui m'a pas mal fait réfléchir.
Tu peux rappeler le titre?
Évolution, révolution et l'idéal anarchique
de Élisée Reclus, voilà. D'accord. On va peut-être.
Il nous reste encore 5 minutes.
5 minutes, oui. Donc
alors, on était parti tout au début de l'émission, à partir du discours, on va dire, qui a été prononcé à la fin des émeutes, pour qualifier les émeutiers. Et donc, j'ai fait le rapprochement à partir d'un autre livre que je vais citer, qui s'appelle donc Les écrivains contre la Commune, de Paul Litsky. Moi, je l'ai aux éditions Maspero, mais depuis, il a été réédité chez Gallimard, je crois, en collection de poche. Et donc,
je suppose qu'il est à public.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, je conseille la lecture de ce livre-là. Et si vous faites la lecture de ce livre-là, je pense qu'il faut pas le lire que comme un livre d'histoire, mais le lire avec les lunettes de 2023 et de tout ce que vous avez pu entendre à la radio, dans les médias, dans la bouche des politiciens ces derniers jours, qu'ont déversé. Tout un tas de propos haineux à l'encontre donc des émeutiers, et faire le rapprochement avec ce qui s'est dit à l'époque sur d'autres émeutiers, ceux de la commune, même si c'était un contexte différent, c'est assez intéressant. Et voilà, donc faire cette lecture avec ces lunettes, hein, les lunettes de 2023. Et donc, attends, juste pour... on a encore quelques minutes devant nous. Et dans sa conclusion, il dit ceci, l'auteur du livre, et je trouve que là aussi, ça fait réfléchir, comme peut faire réfléchir l'intégralité du livre d'ailleurs. Il dit lorsque devant le danger révolutionnaire, la classe dirigeante se montre, le visage défiguré par la peur, elle n'est pas belle à voir. Aussi cherche-t-elle, le plus rapidement possible, à reprendre une attitude impassible et sereine. Aussi cherche-t-elle à faire oublier qu'elle a eu peur, qu'elle a été profondément ébranlée. Elle fait très très vite comme si rien ne s'était passé, comme s'il s'était agi que d'un horrible cauchemar. Et puis là, il cite un extrait d'un académicien de l'époque, Ludovic Alvi, qui dit le 3 juin 71, donc peu de temps après l'écrasement de la commune, il dit « Ce soir, à 9h30, le long des boulevards, toutes les boutiques ouvertes, les cafés éclairés et regorgeant de monde, grande foule, gaie, bruyante, animée, et sur tous les visages comme un étonnement de revivre, et vite et si facilement. » Je pense que ça me ramène effectivement à, si on le regarde avec les lunettes de 2023, il y a effectivement un pouvoir maintenant, par exemple, qui affiche une attitude sereine. Genre c'est derrière nous. Bon, on redoute un peu le 14 juillet quand même, mais c'est derrière nous. L'événement était passé. Maintenant, on a toute une armée de spécialistes, de sociologues, etc., qui tentent de faire une autopsie de ce qui s'est passé, mais avec une certaine sérénité, un certain recul.
Enfin, je suppose que quand même ni Macron ni Bernard Arnault n'ont perdu une minute de sommeil à cause des émeutes dans les cités. Enfin, moi, c'est mon idée qu'ils n'ont pas eu si peur que ça. Enfin, mais bon. Mais sinon, Nicolas, il citait aussi le livre que tu as cité toi. Si tu peux rappeler, il est en vente aussi à Publico, je suppose.
Ah bah oui, parce que c'est la Grande Révolution de Kropotkine.
De Kropotkine, voilà.
Et je crois bien que dans les bouquins sur les écrivains contre la Commune, parmi tous ces fumiers d'écrivains là, qui sont tous célébrés par la République, d'ailleurs enseignés dans ces écoles, effectivement, je crois qu'il y en avait un, ils expliquent que ces eaux-là, je crois qu'ils se distinguaient particulièrement, parce qu'au moment où c'était, les rues de Paris étaient tellement ensanglantées que même eux, ces écrivains-là, disaient « bon, c'est bon, ça suffit, je crois qu'on peut arrêter ». Bah, lui, il disait « non, faut continuer, faut y aller jusqu'au bout, parce que c'est comme de la mauvaise herbe, et si on les extermine pas complètement, ça va revenir ».
Et c'était lequel qui disait ça ?
Zola.
Bravo.
Si je ne me trompe pas.
Eh bien.
Voilà, bah donc quelques propos donc sur notre époque, celle d'avant, mais avec une certaine continuité. En tout cas, je trouve que les bourgeois d'aujourd'hui, dans leur aspect réactionnaire, valent bien ceux de la Commune et comme le faisaient certaines dames de la bonne société, de la Commune, allaient tremper leur petit mouchoir blanc dans le sang des communards exécutés. J'exagère peut-être un peu, mais c'est une image, bien évidemment. Mais je pense que c'est vrai que cette bourgeoisie n'a pas changé. À savoir qu'elle elle veut sa tranquillité, elle veut que ce monde perdure, son monde, ses privilèges, et que même quand elle est animée par des idéaux qui peuvent être jugés de progressistes, voire même de révolutionnaires, parfois, quand la révolution se pointe, quand le désir d'égalité se pointe, eh bien, elle retrouve vite ses intérêts de classe. Et pour terminer sur une petite note, je vous l'avais cité, puis je l'avais dit à Natacha aussi dimanche et tout, si des auditeurs, auditrices, bourgeois et bourgeoises nous écoutent, je leur rappellerai simplement ce que me disait un ami, un copain, un bourgeois de fait, qui me disait « Je suis un bourgeois, mais je ne suis pas solidaire de ma classe. » On en arrête là ou vous voulez il est 13h.
Il est
13h, ça va continuer sur Radio Libertaire, vos programmes habituels du lundi. Un petit morceau de rock pour terminer avec un groupe que j'écoutais beaucoup dans les années 80, c'est Oberkampf, et leur morceau un petit peu phare, on va dire, c'était Couleur sur Paris. À la semaine prochaine, au revoir. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver, je le dis toujours, sur notre site, hein, bien évidemment, anarchiste.info, podcast, streaming, articles, rendez-vous, et également toutes les émissions de lundi matin qui sont archivées. Au revoir. Imagine un peu la gueule.
est alors béni, sacré par Aphrodite, Eros et compagnie. L'amour donnait un lustre au pire des Minus, et la moindre amoureuse avait tout de Vénus. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les cœurs battent encore, et la règle du jeu de l'amour est la même, mais les dieux ne répondent plus de ceux qui s'aiment. Vénus est faite femme, et le grand Pan est mort. Et quand fatal sonnait l'heure de prendre un linceul pour costume, un tas de génies l'œil en pleurs vous offrait les honneurs posthumes pour aller au céleste empire. Dans leur barque ils venaient vous prendre, c'était presque un plaisir de rendre le dernier soupir. La plus humble dépouille était alors bénie, embarquée par Caron, Pluton et compagnie. Au pire des Minus, l'âme était accordée, et le moindre mortel avait l'éternité. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les gens passent encore, mais la tombe est hélas la dernière demeure, et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent. La mort est naturelle, et le grand Pan est mort, et l'un des derniers dieux, l'un des derniers suprêmes, ne doit plus se sentir tellement bien lui-même. Un beau jour, on va voir le Christ descendre du calvaire en disant dans sa lippe: merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types. J'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Les Amis d'Orwell, nouvelle édition ce soir. Ce soir, nous parlons de l'usage des armes, du permis de tuer, de la police, des dernières affaires de crimes par arme à feu suite à des situations de, notamment, de refus d'obtempérer. On en parle beaucoup depuis quelques jours, quelques semaines. Avec moi, deux invités autour de la table, membres des collectifs des Armes et de l'Assemblée des Blessés, Laurent et Christian, salut.
Salut. Salut.
On va essayer ensemble ce soir de revenir sur ce qui s'est passé très récemment, principalement en région parisienne. Donc notamment de trois affaires avec quatre morts, victimes des balles de la police. Et évidemment, en toile de fond, la fameuse question de la légitime défense des policiers et d'un article du Code de la sécurité intérieure qui s'appelle 435-1. Et qui donc, qui a été voté il y a 5 ans, et qui donc encadre en fait l'usage des armes des policiers, et comment dire, arrondit encore une fois les capacités des policiers de mettre en avant leur légitime défense pour tirer dans le tas, notamment. On l'a vu donc récemment ces dernières semaines sur des personnes qui refusent de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Nous diffuserons tout à l'heure des extraits de prise de parole qui s'est passé la semaine dernière, samedi 11 juin, organisé par Urgence Notre Police Assassine, le collectif créé par Amal Bentounsi il y a une dizaine d'années, j'ai l'impression, maintenant, hein, parce que son frère a été tué d'une balle dans le dos,
je crois,
en 2012, dans, il y a 10 ans. Et donc Amal était présente lors de ce rassemblement à République, place de la République, pour réagir justement à ce qui s'est passé quelques jours avant dans le quartier de Clignancourt, Barbès-Clignancourt, 18e arrondissement de Paris, où quatre personnes ont été intercepté, neutralisé. Et notamment, il y a eu donc cette jeune fille, Rihanna, qui est morte, qui était passagère de la voiture, parce que le conducteur avait refusé de s'arrêter lors du contrôle de police. Pas mal de témoins se sont exprimés, qui contredisent beaucoup. Pour une fois, ça a l'air assez clair, la version de la police sur cette fameuse façon de régler les histoires de refus d'obtempérer, donc en tirant dans le tas. Donc il y a eu 10 balles tuées, je crois, qui y ont cours, 10 balles tirées, un mort, un blessé grave, et heureusement les deux personnes de l'arrière n'ont pas été touchées. Donc ça a enflammé un petit peu les médias grand public depuis un mois, puis on a l'impression que c'est en train de craquer ce principe de la légitime défense, de l'usage de l'arme, qui est donc motivé à chaque fois pour dire mais la personne a essayé de fuir. Et donc on va essayer de revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez dire tous les deux de ce que vous avez senti de ces derniers temps? Est-ce que vous pensez qu'il y a est-ce que vous pensez que c'est en train de craquer quelque part cette tactique, ou est-ce que
disons que ça revient à la surface? Ouais. Parce que ça fait quand même depuis le début nous on bataille contre cet article. Parce que mis à part l'interdiction des LBD ou de la BAC, on a cette troisième bataille qu'on mène avec urgence notre police assassine, qui est ce fameux article 435-1 qui a été voté, faut bien le comprendre, en procédure d'urgence. Donc il n'y a pas eu de débat, il y a juste eu une motion de censure qui a été proposée, évidemment. Toute la coalition socialiste, les LR, même l'UDI, enfin surtout l'UDI, on fait vraiment, on fait front contre cette motion. Et donc, elle a été rejetée et ça a été voté, comme on dit, à la va-vite. Il n'y a que 3 députés qui ont été contre. Le front de gauche, c'est-à-dire les communistes, la FAGE, la FAS et le parti de gauche se sont abstenus.
Mmh. Donc ça, c'était en 2017. Donc juste avant, oui. C'est une des dernières lois du quinquennat Hollande.
C'était okay. À la va-vite. Il fallait peut-être satisfaire les flics parce qu'ils venaient de se prendre Viry-Châtillon.
Oui, il y avait
les attentats. Il y avait toute une série, et donc les syndicats de police. Nous, on pense que ce sont les syndicats de police qui ont rédigé ce code de sécurité intérieure et qui l'ont donné aux députés. D'accord. Aux tous, puisqu'il n'y a pas dans le code de sécurité, il y a aussi l'augmentation des peines d'outrage.
C'est-à-dire l'augmentation des peines de prison pour les cas d'outrage.
Oui, et d'amende, puisque maintenant la matraque financière, elle tourne à plein régime. Mmh. Et puis il y avait aussi le début de l'anonymat des flics. Dans les affaires sensibles.
C'est ça qui est. Ouais. C'est voilà, demandé à ne pas être identifié dans les procédures judiciaires.
Ça rentrait en fait le code de sécurité intérieure. Voilà, c'était ces 3 objectifs qui étaient. Et c'était sous le ministère Leroux, donc qui était un peu un mou du genou. Et évidemment, il s'est appuyé sur les syndicats de police pour faire passer cette loi.
Ok. Laurent, toi, peut-être qu'on va peut-être faire une parenthèse pour commencer avec toi. Toi, tu as été blessé. Je rappelle pour les contextes, c'est que l'Assemblée des blessés, c'est une assemblée qui a été créée il y a un peu moins de 10 ans, c'est ça, le monde de
2014.
Voilà,
2014,
l'affaire de Rémi Fraisse. Vous aviez été. Alors, toi, tu n'étais pas encore concerné, Laurent, parce que toi, ça date de 2016. Mais toi, Christian, ton fils s'est fait blesser gravement au visage par un tir de LBD en 2009. 2010, pardon. Il y a la procédure, elle est très longue, si tu veux, tu pourras y revenir tout à l'heure, mais c'est, dans ton cas, c'est pas encore terminé, t'es encore dans le.
Non, on est encore en procédure judiciaire.
Laurent, toi, t'as été blessé en septembre 2016, juste pendant la loi travail, juste à la fin de la loi travail, on va dire. Et toi, dans ton cas, c'est quand même assez particulier, puisque toi, le CRS qui t'a blessé grièvement, à l'œil, mutilé, il t'a mutilé, en fait, c'est une infirmité permanente en termes juridiques. C'est qu'en fait, le policier, il va être jugé. Et déjà qu'il y a un procès, c'est assez exceptionnel. Et donc, en plus, il va être jugé aux assises. Donc, je crois que tu as appris cette semaine la date de ce procès.
Absolument, absolument. C'est la bonne nouvelle récente, c'est d'hier même. C'est, voilà, le procès donc, aux assises aura lieu à Paris du 12 au 14.
12, 13, 14, 12.
Voilà, exactement.
12, 13, 14, 12.
D'accord. Une autre SD.
Ça s'invente pas. Ouais. Non.
Voilà, c'est. Ça fait 6 ans d'attente, mais toi, voilà, ça valait le coup, je pense.
Toi, tu dis souvent, déjà, avoir, dans ces affaires-là, avoir un procès, c'est déjà une victoire.
Ouais, bah oui, je pense que quand on. Moi, quand j'ai plongé dans le sujet des violences policières en 2016, j'ai eu la chance d'arriver et de rencontrer l'Assemblée des blessés et tous les collectifs militants au procès des policiers qui avaient éborgné Joachim Gatti.
À Montreuil, oui.
À Montreuil.
Plutôt, ouais.
Et voilà, quand on s'intéresse au sujet, en fait, c'est déjà une brutalité policière, une blessure, une mutilation, la mort. Mais derrière, en fait, c'est une absence de procès, en fait. C'est ouais. ça. Qui est super, super choquant.
Il y a qui revient tout le temps. Tout à fait. Finalement, il y a les non-lieux, il y a tout des appels, mais il y a les non-lieux confirmés.
Les cassations.
Et les procès sont même pas du tout. C'est ultra minoritaire, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Exact. Ultra minoritaire.
Que ce soit pour des personnes tuées ou des personnes gravement mutilées.
Absolument. C'est ça le gros sujet, en fait. C'est que derrière, il y a un tel mépris, un tel. Voilà, un tel écrasement, un tel, déjà depuis le départ, de la criminalisation de la victime, enfin voilà, jusqu'au bout, quoi. C'est des années de procédure, Christian, voilà, depuis 2010. Mmh. C'est quand même assez hallucinant. Voilà. Moi, déjà, la victoire, c'était d'avoir un procès. Déjà, je pense que le contrat est rompu aux assises, puisque c'est une mutilation, c'est un acte criminel dans le droit. Mmh. Dans le droit. De ce pays.
Et donc, si je me rappelle, c'est un jury populaire, c'est-à-dire des personnes tirées au sort, qui sont donc accompagnées par des magistrats professionnels, mais c'est leur intime conviction qui doit primer sur la condamnation de la personne. Le procès, donc, c'est déjà une victoire, ça veut dire que finalement, bon, le résultat, l'issue du procès, importe peut-être peu pour toi, t'es pas dupe de ce que veut dire la justice aujourd'hui, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Enfin, voilà, la justice, ce que c'est, ce que ça représente aujourd'hui, c'est pas du tout ma vision, en fait, de la justice. Mmh.
Oui. Et la justice, l'institution judiciaire et la justice,
exactement.
Le terme noble avec tout ça.
Je pense que déjà avoir un procès, déjà, enfin. Quand j'étais venu, que tu m'avais invité la dernière fois, on était voilà le parquet qui faisait un petit peu de bidouillage pour que ça soit en correctionnel, parce qu'il qualifiait ça.
C'est bon, t'avais invité le jour où t'as, enfin le moment où t'as appris justement que ce serait les assises et pas le tribunal correctionnel.
Exactement. Ouais. Mais on savait que déjà qu'il y avait un procès. Ouais. Donc déjà bon, c'était déjà énorme quoi quand. Tu vois le sort des autres et en plus aux assises, voilà, c'est super. Ouais. C'est pas super par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la justice, ouais. Ce que ça représente, mais c'est envoyer un policier aux assises, c'est quand même assez fort. Le summum, je dirais, la cerise sur le gâteau, ça serait sa révocation.
Ouais.
Et là, bon, là, c'est. Mais bon, à chaque fois, je rêve pas vraiment. Là, pour moi, le procès, c'est une victoire. Et puis, avec les camarades, avec toi, avec d'autres, on va essayer de mettre en place quelque chose de. Ouais. De plus grand finalement que de se présenter à un jugement, on va essayer de faire une stratégie, voilà, d'occuper ces jours-là, de repolitiser en fait les violences policières, sur qui elles s'abattent, sur ce que c'est que la violence policière, la violence judiciaire derrière, comme on disait, les absences de procès, toutes ces histoires qu'on voit pas. Tu parlais de la loi L435-1. On a listé en fait là quelques histoires récentes là sur les affaires qui font la une des médias en ce moment. Hein. C'est donc ces pauvres jeunes là qui se font abattre.
L'histoire du Pont-Neuf, deux morts, de frangins.
Voilà.
Rihanna, donc Rihanna. Plus récemment. Juste avant, il y avait aussi un livreur à Sevran. Pareil, hein, il s'est fait canarder dans un véhicule alors qu'il était soi-disant en train de fuir. Et voilà. Et toi,
récemment, il y a les tirs là sur la camionnette qui transportait des migrants, l'Égyptien qui est mort
aussi. C'est ça,
Près de Nice, qui est mort aujourd'hui là. Donc, il y a ces histoires là, mais en fait, là, on a regardé un petit peu depuis quelques mois. On suit un petit peu, on liste un peu les actions de la police, mais c'est
Tout le temps. Mmh.
C'est vrai qu'elle tire tout le temps.
Mmh. Elle tire de plus
en plus.
Elle
tire de plus en plus depuis 2017.
On va en parler après, sans doute, sur les différentes...
C'est vrai que depuis quelque temps, toi, tu... disons que tu as un grand respect pour Maurice Rajfus, qu'on a reçu dans cette émission il y a plusieurs reprises, et qui nous a quittés d'ailleurs il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Hein, c'était le 13 juin.
Tout à fait.
Maurice, on te salue, évidemment, parce que ce que tu as fait pour la prise de conscience de tous ces sujets, c'est énorme. Les bouquins que tu as écrits, ils sont encore... à Publico, il y a toute la collection, donc n'hésitez pas à vous abreuver de sa parole. Et Maurice a animé pendant une vingtaine d'années le bulletin Que fait la police. Et toi, Laurent, ça fait quelque temps que tu as envie de te lancer un petit peu dans ce recensement un peu... Ouais. C'est un gros travail, hein. C'est
énorme.
C'est du temps, et puis c'est se replonger aussi dans les...
Ouais.
Et donc là, ne serait-ce que tout à l'heure, en venant dans l'émission, tu essayais justement de chercher les cas similaires dont on n'a pas parlé autant que les quatre cette semaine. Et là, t'es déjà tombé sur plein de sujets, de petites dépêches, des articles anodins ou qui révèlent le même type de machine à tuer, quoi.
Tout à fait. Des délits de fuite, des courses-poursuites. Enfin, c'est le western. Ça fait pas la une. Mmh. Là, c'est vrai que tu posais la question, là, que ça commence à craquer. Mmh. Et c'est vrai que là, on voit que là, il commence à y avoir l'opinion publique, je ne sais pas tant ça n'existe pas, mais en tout cas, de plus en plus d'articles de presse, même l'Express en parle, donc là, on a atteint des sommets. Ouais.
En posant la question, est-ce que la police tue trop ou la police...
Et en plus, le discours, il est complètement biaisé, parce qu'on parle de refus d'obtempérer, mais en fait, ça va plus loin que ça. Enfin, tout à l'heure, on parlera du texte. Ouais. Le texte exact, en fait, montre qu'il y a il y avait une volonté quand même de tuer pour faire en faisant ce texte.
Mmh. Bah, d'ailleurs, on peut en parler tout de suite, parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu disais qu'il fallait rappeler les chiffres. C'est vrai que il y a des chiffres qui existent depuis longtemps, mais comme par hasard, puisqu'aujourd'hui, comme tu dis, les médias commencent à se poser des questions, que l'opinion publique, oui, est en train de vriller, là, c'est quand ça glissait un peu, et donc on ressort les chiffres qui existent depuis 2017 et qui ressortent maintenant pour comme pour donner une lumière, comme pour légitimer cette nouvelle critique de la police, alors que ces chiffres-là, ils existent depuis longtemps. Alors j'en ai repéré quelques-uns. Tout de suite, au moment de la loi, premier semestre 2017, la loi est votée en février, 192 tirs ont été tirés en un semestre, et ça représente déjà 40% de plus que la même période de l'année d'avant, 2016. Et en gros, d'autres statistiques un peu similaires, depuis l'entrée en vigueur de la loi, il y a eu en moyenne 337 tirs par an, et il y en avait eu 256 par an en moyenne sur les trois années précédentes, avant la loi. Donc là, on est à une hausse de 32%. Donc voilà, c'est du chiffre froid, c'est... et qui ne veut pas dire grand-chose, à part le fait que, clairement, il y a l'usage de l'arme, en tout cas, c'est comme si, voilà, ils se lâchaient un peu la bride, quoi.
Permis de tuer.
Voilà, c'est ça. C'est que là... alors, si on en revient au texte, Christian, c'est bien de le rappeler, parce que comme ça, ce sera réglé, on en parle vraiment. On ne va pas faire une émission juridique en lisant le code pénal, hein,
non.
Le code civil de l'intérieur. Mais il faut rappeler que la légitime défense, c'est un principe qui concerne tout le monde. Hein, par définition. Tout le monde, effectivement, à partir du moment où on se sent menacé, en fonction de la menace qui vient vers nous, on doit respecter trois critères. Proportionnalité, par rapport à la riposte, quelle arme on utilise par rapport à ce qui nous menace. L'instantanéité, donc là, ça doit être immédiat. Et la nécessité. Voilà, ces trois principes, donc ça concerne tout le monde, mais les policiers et les gendarmes, bien entendu, dans l'usage qu'ils peuvent faire de leur arme, depuis cette loi de 2017, ça permet justement aux policiers d'avoir ce droit supplémentaire d'user de leur arme pour justifier finalement que qu'ils puissent échapper aux poursuites carrément. Enfin, c'est ça qui était un petit peu l'objectif, et à chaque fois qu'il y a des enquêtes où il y a des non-lieux à la fin, c'est exactement ce que ça veut dire. Les flics ne sont pas poursuivis, il n'y a pas de procès. Donc dans cet article 435-1, il y a donc 5 alinéas différents. Je ne sais pas, tu peux peut-être les détailler, Christian.
Mais il y a le premier, c'était lorsque les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsqu'une personne armée menace leur vie et leur intégrité physique.
D'accord, donc ça c'est effectivement qui autorise l'usage de l'arme dans ce cas-là.
Il n'y a aucun problème.
Et d'ailleurs, la police municipale, depuis cette loi-là, peut...
Oui.
Peut arguer de cette loi sur ce premier alinéa.
Oui, ils ont élargi justement, au départ c'était vraiment pour la police nationale, et après ils ont élargi à d'autres groupes comme la police municipale, mais il y a aussi les polices des transports, il y a toutes ces polices-là en fait, et d'ailleurs ce moment-là il arrive à la fin, c'est le début du mouvement Gilets jaunes. Les dernières autorisations, elles arrivent le 15 novembre, en fait. Ils se sont dépêchés, d'ailleurs, avant le mouvement Gilets jaunes, à faire passer plein de trucs. Ils avaient le sentiment, en fait, je pense que... C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait une volonté réellement de casser avant même que ça commence.
Donc, deuxième alinéa, lorsque, je dis, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées.
Alors ça, c'est l'histoire des Gilets jaunes. Ouais. En fait, c'est ce qui va prévoir dans certaines décisions de justice de par le procureur, le fait qu'ils ont tiré au LBD, parce qu'il n'y a pas que l'arme de service dedans, il y a aussi toutes les armes de tir. Le LBD est une arme de guerre.
Les non létales, entre guillemets. Ouais.
Voilà. Et donc là, ce truc-là va servir en fait au juge pour relaxer les flics.
Troisièmement, c'est quoi le cadre du troisième alinéa ? Lorsqu'ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leur investigation et qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui.
Ah, ben là, on est dans le cas qui nous concerne. C'est-à-dire que quand on dit susceptible d'eux, c'est qu'un sentiment. C'est-à-dire qu'ils peuvent tirer, en fait, ils peuvent supposer que la personne est susceptible de perpétrer un acte. Donc c'est facile, hein, il refuse d'obtempérer, il se sauve. Mais on sait que la plupart, quand on discute, ils ne se sauvent pas pour aller commettre. D'ailleurs, c'est ce qui a en dernier un périple meurtrier. C'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont tous leurs raisons, ils n'ont pas leur permis. Pour sous l'aile à Marseille, c'est parce que tout simplement on lui a offert une voiture et puis qu'il a pas réussi son permis.
Il s'est même pas réveillé le jour du permis.
Il n'a pas osé dire qu'il avait pas le permis. C'était plus la peur de ses parents que la peur du policier. Et donc les flics, pour eux, c'est pas leur problème. Pour eux, c'est on tire parce que de toute façon, ils sont vexés qu'il y a un refus de. C'est une vexation. Ils sont vexés et boum, 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 ils vont tirer parce que dans la loi, il y a est susceptible de perpétrer. Et c'est ça, c'est cette phrase-là, en fait, qui est dangereuse et qui n'est pas très relayée par les médias.
Non, pas du tout.
Le média, c'est le refus d'obtempérer. Non, c'est pas le refus d'obtempérer qui fait qu'ils tirent. C'est qui, pour eux, c'est susceptible
d'entraîner
de perpétrer.
D'autres dommages graves.
Délit ou crime.
Délit ou crime, ouais.
C'est un délit ou crime. Donc il y a un délit. C'est-à-dire de perpétrer un délit, crier un feu rouge.
Ouais, et donc tu vois.
C'est ouf.
Ouais. C'est vrai. Donc le troisième alinéa, c'est donc les personnes qui se soustraient à la garde des policiers, etc. Et qui s'échappent. Mais la quatrième concerne les voitures.
Les voitures, voilà.
Même principe, mais en voiture.
C'est ça. Voilà. C'est le même principe avec la voiture qui fait que.
Dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Encore une fois.
C'est ça, il faut bien comprendre une chose, qu'il y a moins de risques pour un policier de tuer, en matière juridique, de tuer quelqu'un que de tirer dans les pneus.
Voilà, alors c'est le grand mythe qui ressort.
Ça, c'est le mythe. Au mois de mai, c'est un policier municipal qui a été condamné à 15 mois de prison. Avec sursis, pour avoir tiré sur des pneus. Sur un pneu, alors que la personne faisait une marche arrière. Et en plus, qui plus est, le jugement a montré qu'il n'était pas en légitime défense.
Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce qui explique qu'elle était condamnée pour avoir tiré dans les pneus ? C'est quoi qui explique ça ?
Eh ben, en fait, c'est le fait que ça rentre pas dans le cadre de la loi.
L'usage de l'arme.
L'usage de l'arme, en fait, il y a l'usage de l'arme. Un policier, quand il sort son arme, c'est pour, comme ils disent, neutraliser. Mais neutraliser, c'est pour tuer.
C'est un terme militaire pour dire tuer.
Voilà. Et d'ailleurs, dans les, sur les cibles d'entraînement
des mousses, là, ouais.
En papier. En fait, il y a ce qu'on appelle la bouteille qui va de la tête jusqu'au ventre. Mmh. Et là, en fait, tu as 5 points. Mmh. C'est le maximum. C'est-à-dire qu'on apprend aux flics à tirer dans le ventre, thorax et tête.
Mmh. Les organes vitaux, quoi. Mmh.
Les organes vitaux. Et c'est pour ça que faut bien comprendre, quand un policier sort son arme, c'est pour tuer.
Mmh. Il vise ça.
Et donc, c'est là où nous, en 2017, on ne comprenait pas. On dit ça ne peut être qu'un permis de tuer. Parce que dans cette règle-là, plus le fait que le policier, il va imaginer, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalité, c'est-à-dire il faut que je sois en danger. Et maintenant, c'est il faut que je me sente en danger.
Ouais, c'est ça.
Et c'est, là,
c'est ça, entre c'est, être ou se sentir en danger. C'est la grande différence.
Voilà, c'est en 2015, pour le procès de Geoffrey, en fait, il y avait cette histoire de présomption, ouais. Mon fils, une présomption de légitime défense. En fait, parce que le policier. Bon, il avait menti, mais il disait on était sous une pluie de projectiles, je n'ai pas eu d'autre choix que de tirer. Bon, c'était pas vrai.
Tout ça pour rentrer dans le cadre de
dans cet article. Justement,
mais alors qu'il n'existait même pas.
C'est-à-dire que c'est tout un enchaînement de plusieurs années, et avec après les attentats, après Viry-Châtillon, les manifs de flics avant cette loi, c'est tout, ça bougeant, c'est plein d'éléments qui ont fait que les députés, et puis vraiment, franchement, à ce moment-là, Leroux, c'était le mou du mou. Et donc, il a accepté tout ce que les syndicats...
Leroux, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque.
Le ministre de l'Intérieur de l'époque, oui.
Leroux, c'est pas Leroux.
De la justice.
C'est Cazeneuve.
De la justice,
c'est Cazeneuve.
C'est
Cazeneuve, ouais. Parce que c'était Valls qui était... Non, à la fin, c'est Cazeneuve qui était Premier ministre. Et c'était, oui, c'était un PS, comment il s'appelle ?
C'était pas Leroux ?
Oui.
Non, c'était
un gars qui restait quelques mois. Ouais, qui était quelques mois, parce qu'il s'est fait rattraper par une affaire de fisc, je crois, ou de salaire fictif. Bruno Leroux. Bruno Leroux, non ?
Non, c'était la justice.
Donc là, il faut donc rappeler, effectivement. Alors, le cinquième alinéa, c'est donc dans le but exclusif d'empêcher la réitération dans un temps rapproché d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre.
Ce qu'ils appellent le périple meurtrier.
Voilà. Et il faut rappeler que cette loi est arrivée aussi en 2017 pour rassurer, je ne sais pas, ou donner un cadre plus rassurant de l'usage de l'arme des policiers après les attentats qui avaient lieu quelques mois auparavant, quelques années auparavant. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, ces dispositions, finalement, servent à blanchir des policiers qui sortent leur arme en pleine rue contre des civils, on va dire.
Et ça permettait de faire un amalgame entre dans les médias, dans la même les politiques, un amalgame entre terrorisme et délinquance. Et là, en faisant cet amalgame-là, en fait, ça a permis toutes ces lois, d'ailleurs, toutes ces lois antiterroristes, même l'état d'urgence, ça a mis en fait au droit commun. Et donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'on avait fait des banderoles, nous sommes tous des terroristes, parce que on nous applique en fait les lois antiterroristes.
Ouais, donc on rappelle ce principe que beaucoup de gens oublient, y compris en ce moment, c'est que le tir dans les pneus et le tir dans les jambes, ça n'existe pas, à part dans les films et dans les scénarios de fiction, parce que justement, l'usage des armes est très encadré, et quand le flic sort son arme et qu'il est prêt sur la détente, c'est pour neutraliser, et pour tirer. Donc, une voiture, c'est l'habitacle, et pas, surtout pas les roues. C'est vrai qu'on voit, dans l'imaginaire, on voit souvent des films où on tire dans les pneus, et puis que la voiture fait un embardé, et puis va se cracher sur un mur. Mais c'est vrai que tu tires dans un pneu, ça peut aussi écraser des passements à côté. Donc, je pense que
c'est là, le policier devient responsable.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, les personnes, et ben on tire dans la bouteille, parce qu'effectivement, tirer dans les jambes, ça risquerait éventuellement de toucher des personnes autour, quoi. Donc voilà pour ces rappels qui sont fort instructifs, parce que on n'arrête pas en ce moment d'entendre cette petite musique.
Il y a un système médiatique qui noie un peu tout ça, et qui permet à la population aussi d'avoir l'idée de il s'en va, on tire dessus. Non, c'est la loi, c'est pas ça. C'est le fameux susceptible de. Parce que la plupart des cas, en fait, on relève les plaques, que ce soit ou pour Soulel ou pour d'autres, il le connaissait. Mmh. En fait, ils les connaissent, donc il suffit juste d'aller se pointer à 6 heures chez lui. Mmh. Mais non, il y a vraiment... Nous, on a toujours pensé, de toute façon, quand on rentre dans la police, même si on ne rentre pas dans cet esprit-là, on finit dans cet esprit, où il faut casser, il faut contraindre la population. Et je dis bien la population, c'est tout le monde, en fait, qui prend à partir du moment où tu commences à sortir... un peu des cadres, donc...
Voilà, donc cet article 435-1 du Code de sécurité intérieure, c'est donc ça. C'est donc... il ne s'agit pas concrètement d'autoriser des flics à sortir leurs armes et à tirer en cas de délit de fuite ou de refus d'obtempérer, comme on dit maintenant. Mais c'est donc bien, effectivement, de laisser l'appréciation du policier, qui a donc une arme mortelle sur lui, de décider que, finalement, bah, voilà, la fuite va entraîner des conséquences graves pour lui ou pour autrui, et donc il dit bon voilà, donc allons-y, il est mort, paf paf paf. Et donc c'est vrai que là ça commence à craquer, parce que dans le départ du Pont Neuf, c'était le 24 avril, second tour de l'élection, dans le quartier chic du centre de Paris, le quartier de la préfecture, du palais de justice et de Saint-Michel, et donc voilà, deux personnes dans une voiture, les flics les repèrent. Apparemment, il s'agit d'un fournisseur de stupéfiants. Un client rentre dans la voiture. Et finalement, voilà, les policiers s'avancent. Là, encore une fois, ceux dans la voiture cherchent à fuir. Ils font quelques mètres. Et là, un jeune policier, je crois qu'il est assez jeune, qui a donc le fameux fusil d'assaut HK-36, c'est ça ?
HKG-36,
arme allemande en dotation de la police française, arme de guerre conçue pour l'armée. Rafale de 10 balles de HK. Hein.
C'est pas une rafale.
Alors justement, ouais.
Justement, c'est pas une rafale, c'est très important à dire.
Plusieurs petites.
Ouais. En fait, il y a des réglages qui sont spécifiques à chaque unité. Et sur la police nationale, en fait, c'est des tirs par deux coups.
D'accord.
Et donc,
c'est un fusil qui peut être fusil mitrailleur, c'est ça ?
C'est un fusil qui peut tirer en rafale comme il peut tirer en paracoup.
D'accord.
Et donc, pour la police nationale, justement, pour des raisons qu'on va croire de sécurité, mais c'est absolument de sécurité de l'arme et non pas de l'individu visé, mmh. En fait, il tire par deux fois. Et en fait, les 10 coups, d'ailleurs, on voit 9 coups. Il y a une... Libé a fait une reconstitution. Et en fait, sur le devant, on voit 5 coups, mais quand on voit on les voit rapprocher, et quand on voit la 5e, on sait très bien que la 6e, elle est partie. En fait, on voit, elle est sur le côté de la voiture, elle est partie. Et après, il y a 2 coups, et après encore 2 coups. Et c'est là, en fait, le flic va avoir du mal à s'en sortir, parce que c'est-à-dire qu'il a appuyé 5 fois sur la gâchette. Ouais. Il n'a pas laissé sa gâchette. En fait, il n'a pas appuyé et laissé la rafale. Il a actionné 5 fois la gâchette. Et c'est là, j'espère que la famille va vraiment s'intéresser sur cette différence-là, parce que c'est là qu'on peut amener...
C'est pas 10 balles qu'on a tirées, c'est 5 fois 2 actions mortelles,
voilà,
qui a été exercée par le policier.
C'est ça. Et donc, c'est tous ces petits détails. Nous, on a remarqué, en fait, dans toutes nos affaires de violence policière, on trébuche sur les détails. Mmh. Et en fait, c'est le détail, en fait, qui ressortent. C'est pour ça que, vraiment, on appelle les blessés, les familles de tués. Il faut qu'on communique dans nos affaires, il faut qu'on se partage ce que l'on sait de chacun de notre affaire, pour essayer à ce que, justement, les prochains ne tombent pas dans ces écueils. Parce que s'il y a aussi beaucoup d'affaires, en fait, qui tombent, c'est parce que, moi, je pense qu'on n'a pas... On manque encore d'un système d'infocentre, on ne sait pas comment le construire, pour pouvoir réellement rassembler toutes ces affaires et en faire réellement... une défense pour après attaquer, en fait, la police.
C'est une période particulière, puisque c'est aussi au mois de juin, comme tous les ans, la commémoration pour le meurtre de Lamine Dieng, il y a maintenant 15 ans, 2007. On essaie d'en parler assez souvent, notamment à ce moment-là, au mois de juin. Donc demain, dans le quartier des Amandiers, c'est le quartier de ses parents, c'est là où il a vécu. la mine, il y a une commémoration, donc c'est pas une marche, donc c'est un lieu de d'échange. Il y aura des prises de parole, il y aura de la musique, il y aura de quoi se sustenter. C'est aussi une occasion de rencontre entre les familles de collectifs, des familles de victimes. C'est toujours un rendez-vous très fort. Et donc c'est aux Amandiers toute l'après-midi jusqu'à 21h, je crois.
C'est ça.
Donc c'est devant le conservatoire dans le quartier de la Panen, la place Carmen. Entre au niveau de Père-Lachaise, au niveau du métro Père-Lachaise.
Ça commence à 13h.
Ouais.
Il y aura des ateliers aussi, des ateliers de prévus.
Ouais, il y aura des. Ouais, c'est ça, notamment
la fabrique du non-lieu, il y aura beaucoup d'ateliers, parce que c'est aussi un moment d'éducation populaire.
Exactement.
Parce que la famille Dieng, justement, elle est en train de passer le relais. C'est pour ça qu'elle essaie, par le réseau d'entraide, vérité et justice, de pouvoir vraiment lancer un réseau qui permette ensuite d'être en ordre de marche pour pouvoir lutter contre les violences policières.
Ouais, donc ça c'est demain, toute la journée. Il y a aussi le lendemain au CICP à Paris, rue Voltaire, une après-midi soirée de concert de soutien à la coordination anti-REP de Paris. Et il y aura également un atelier forum sur la garde à vue. Ça s'est déjà produit il y a quelques temps dans la région. C'est donc, voilà, ça aussi, c'est de l'éduc pop, en fait. Voilà, c'est des scènes de théâtre, en fait, qui sont interprétées autour de la garde à vue, autour de l'arrestation et de rapport avec la police. Et le public est invité à venir, justement, jouer ces rôles très ingrats et très, parfois, qui peuvent rappeler des très mauvais souvenirs, mais au moins qui permettent aux personnes de se confronter dans des scènes. C'est évidemment pas la réalité, mais l'idée c'est que voilà, on est là aussi pour que collectivement on en parle et que ça déclenche des discussions et tout ça. Donc ça c'est au CICP dimanche après-midi à partir de 17h. Et donc la journée de la mine Dieng, rue Place Carmen, dans le 20e, à partir de, c'est quand, 13, non, 13, 14,
13h.
13h. 13h, ok. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y avait la semaine dernière, samedi, donc comme c'est l'occasion à chaque fois après des drames de personnes qui meurent sous les balles de la police, il y avait donc samedi dernier un appel du collectif Urgence notre police assassine, donc créé il y a 10 ans par Amal Bentounsi, donc pour rappeler effectivement l'affaire de Rihanna, c'est ça?
C'est ça, et aussi, c'est pour rappeler aussi qu'ils avaient fait appel en fait à une contre-manifestation Alliance le 2 mai auquel on a participé, et on s'est tous retrouvés verbalisés à 135 €. Mais évidemment, on a monté un collectif
pour le contester,
grâce à l'anti-REP pour pouvoir le contester.
Oui, ça, parce que justement, ouais. Donc c'est la suite à l'affaire. C'est suite à l'affaire du Pont Neuf, avec
ces
deux frères qui sont fait assassiner par ce policier avec le fusil d'assaut. Les deux frères, je retrouve leur prénom, c'est Boubacar et Fadidji. Donc quelques jours après, le syndicat Alliance, puisque dans cette affaire, vu les conditions de l'intervention de l'arme à feu du policier, le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, pour une des rares fois dans ces cas-là, a mis en examen le policier pour homicide volontaire, ce qui généralement n'arrive jamais, ça n'arrive pas, précisément parce que les conditions de l'arme étaient vraiment, vraiment limites. Et évidemment, le syndicat Alliance, le syndicat d'ultra-droite qu'on déteste, comme à chaque fois, gesticule.
Et à chaque fois qu'il gesticule, on est là.
Pour se plaindre de la justice qui ne fait pas son travail. Voilà. Et donc, Urgence, notre police assassine avait lancé un appel public pour venir perturber ces rassemblements à Saint-Michel. Et c'est là qu'il y a eu une grosse nasse où les flics, évidemment, étaient sur place pour arrêter ce désordre. Et donc, il y a donc ces contraventions pour manifestations interdites qui ont été dressés. Et donc, effectivement, si vous êtes concerné ou si vous connaissez des gens concernés par ce type d'amende, il y a des réunions tous les mardis à la coordination anti-répression de Paris. C'est la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, hein, tous les mardis soirs à 18h30. C'est là qu'on peut évoquer ces questions-là et avoir des tuyaux pour contester ces amendes. Donc on va faire la première pause justement en diffusant des extraits, des prises de parole qui ont été réalisées le samedi dernier, le 11 juin, où Amal prend la parole. Elle va donc rappeler ce qui s'est passé à Paris 18 concernant Rihanna. Elle va aborder également la question de Romain. Tu te souviens, Romain, c'est donc un gars qui était en voiture, qui était livreur.
Poursuivi, oui.
Et lui aussi, il avait dû commettre un délit, et donc il ne voulait pas se faire arrêter pour ne pas perdre son permis et donc son boulot. Et donc un flic l'a poursuivi en scooter, en réquisitionnant un scooter. C'était en 2018, c'est la dingue. Et donc il a tiré par arme à feu, il a tiré dans l'habitacle et il a tué Romain. Donc Amal a rappelé cet événement, et donc il y a une lettre de la mère de Romain qu'elle a lue. Et elle a fait également référence, vous l'entendrez, à une histoire qui s'est passée à Stein. Donc on va avoir deux témoins aussi qui vont s'exprimer ce jour-là. Un couple qui était dans une voiture à Stein en pleine nuit. Et une équipe de flics en civil, en fait, les a arrêtés, les a canardés, vraiment criblés de balles. Ils ont failli y rester concrètement, ils sont encore debout, ils disent eux-mêmes qu'ils sont miraculés. Donc l'homme qui conduisait, lui, a vraiment failli y rester. Évidemment, l'homme qui conduisait s'est fait poursuivre, il s'est fait déjà condamner, hein, alors qu'il sortait de l'hôpital pour ce délit de fuite, justement. Et sa compagne qui va témoigner tout à l'heure, elle a aussi une échappée belle. Évidemment, donc voilà, donc il a déjà été condamné et on a rendez-vous tout à l'heure pour un procès d'appel. Donc lui, il est déjà en procédure, alors que les flics qui ont fait le tuer, ils sont droit dans leurs bottes. Donc voilà, donc on va diffuser ces quelques extraits. On commence par donc Amal Bentounsi, c'était Place de la République la semaine dernière, samedi 11 juin.
Alors bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui ce rassemblement, il fait suite à l'événement tragique qui a eu lieu samedi dernier, qui a causé la mort d'une jeune fille lors d'un contrôle routier. Rien ne peut justifier qu'un homme ou une femme meure dans ces conditions. C'est d'autant plus difficile pour les familles que cette mort violente s'accompagne d'une inversion accusatoire. Ce sont les victimes qui sont présentées comme les coupables. On parle de leur casier judiciaire, mais les témoins sont formels. Des policiers ont vidé leurs cartouches sur une voiture qui ne présentait aucun danger. La légitime défense ne tient pas. Toujours utilisée pour occulter la réalité, et la loi de 2017 permet ça. Depuis cette loi, depuis 2017, une nette augmentation de l'usage des armes à feu par les policiers et le sentiment d'impunité et de toute puissance. Malheureusement, ce n'est pas le premier ni le dernier décès dans ces circonstances. Cela fait des années qu'on dénonce ces crimes policiers, notamment l'usage des armes létales. Il y a régulièrement des morts lors de tentatives d'interpellation de la sorte. Olivier Gomez, Guy Camara, les deux frères du Pont-Neuf, Romain Genva et Souel à Marseille. La liste est longue. La liste est tellement longue qu'on ne peut tous les citer. Une jeune fille est morte. Alors certains viendront nous dire que c'est la faute du conducteur. Eh bien moi je vous dis que non, c'est la faute du policier qui n'a rien trouvé d'autre à faire que de tirer sur un véhicule avec 4 individus, dont 2 jeunes filles. 9 balles, c'est un acharnement. Donc quand les policiers viennent nous dire qu'ils sont en état de choc parce qu'ils ont causé la mort, c'est des foutaises. Parce que lors de leur formation, un policier est celui qui a tué mon frère, l'a précisé Damien Sabougian, au tribunal, quand il a été condamné. Il a dit, on nous a appris à sortir notre arme, et quand on sort notre arme, ce n'est pas pour blesser, c'est pour tuer, pour neutraliser. Donc l'intention, on ne peut pas pas dire qu'elle n'est pas là. L'intention, elle est là. Quand on sort son arme, quand des policiers sortent son arme, sortent leur arme, c'est pour tuer. Il y a quelques familles de victimes ici. À ma droite, Aurélie, la sœur d'Angelo Garand, qui a été tuée sur le fondement de l'article L435-1.
Bonjour, je suis la sœur d'Angelo. Mon frère a été tué il y a 5 ans, le 30 mars 2017. Quelques jours après la validation de cet article de loi. Mon frère a été tué de 5 balles dans le torse. Le 30 mars 2017, Angelo, il est venu pour manger chez mes parents. En fait, pour en revenir à la criminalisation de la victime, mon frère a fait de la prison. Et il a eu une permission de sortie 6 mois plus tôt. On y a donné une journée. Ils lui ont donné une journée. Il n'est pas rentré. Le 30 mars, il vient pour déjeuner chez mes parents. Il y avait ma famille. Ils étaient en train de faire un barbecue. Et à 13h, c'est le GIGN qui débarque chez nous. Un commando armé de l'État. Ils mettent toute ma famille à terre. Angelo, il a juste le temps de se cacher. Je vais la faire bref sur l'histoire d'Angelo. Ça fait 5 ans que je le répète. Il n'a rien à prouver, il avait le droit de vivre. Ils étaient 5 hommes du GIGN devant mon frère. Ils l'ont abattu comme un chien, ils l'ont exécuté comme un chien de 5 balles dans le torse. Il y a 2 tireurs. Ils l'ont visé, ils ont mis les lumières, ils ont visé les 5 organes vitaux de mon frère. Je veux plutôt pointer la justice et l'article de loi, justement. On s'est aussitôt constitué partie civile. On a eu un premier non-lieu sur la légitime défense basique des gendarmes. Et en 2019, on a fait appel. Notre appel a été rejeté. Et là, c'est historique. La peine de mort est revenue. Une exécution légale. Le L435-1. On a continué, on a été jusqu'en cassation. Et là, chose grave, en cassation, la justice n'a même pas examiné notre pourvoi. Ils l'ont rejeté. Comment peuvent-ils dire que c'est de la légitime défense, 5 balles tirées dans le corps d'un homme, le cœur, les 2 poumons, le foie et le rein de mon frère transpercé, alors qu'il y a ma famille, il n'y a même pas 5 mètres, qu'il n'y a pas eu de sommation, qu'il n'y a rien eu. Cet article de loi, quand on le regarde, c'est un véritable permis de tuer. Et la justice, elle l'utilise. Elle l'a utilisé la première fois sur Angelo. Il est beaucoup plus simple que cet article de loi, il passe d'abord sur des membres du GIGN. Plus personne irait regarder après. La police pourra tuer en toute impunité. Et vous savez, c'est quoi l'impunité? On n'a même pas de procès. On a été sur le terrain de la justice. On a voulu justice. La justice, elle nous a fermé les portes, tout le monde. Chaque individu tué, assassiné, exécuté, que ce soit par la police ou non, il doit y avoir un procès afin que la vérité éclate. Vous croyez sérieusement que si ça serait de la légitime défense réellement, ils s'en feraient pas un plaisir de nous donner des procès et de jouer leur scénario pourri? Aujourd'hui, je suis là 5 ans après. Faut penser aux familles. Pensez aux familles, jamais on verra les assassins. Jamais, 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 jamais répondront leurs crimes. Et là, c'est toujours le même processus. Ça, c'est depuis des années. La victime, elle est coupable. Angelo, lui, c'était le gitan en cavale évadé, multirécidiviste. Mais lui, comme le conducteur de la voiture, mais ils ont payé. Si on reproche des faits, c'est que la justice, elle les a fait payer. Alors, qui paye leurs crimes? Mais avec cet article de loi-là, jamais les portes du tribunal s'ouvrira quand vos frères sera tué. Et ça, c'est inacceptable. On doit combattre. On doit combattre absolument. J'ai ici la lettre de la maman de Romain Chenevin. C'est juste pour vous expliquer que ce qui s'est passé samedi dernier, il ne s'agit pas d'un épiphénomène ou de quelque chose très rare qui vient d'arriver. Que la mort de cette jeune fille soit exceptionnelle. Non, ce n'est pas vrai. Romain Chenevin, un jeune homme qui travaillait à Paris, qui était cuisinier,
il avait besoin de son permis de conduire. Le premier contrôle de police à Paris, il a fait un refus d'obtempérer parce qu'il ne voulait pas se faire arrêter parce qu'il allait au travail. Romain n'avait pas de casier, comme on pourrait dire pour toutes les autres victimes. Un policier, sur le fondement de cette loi, l'article L435-1, a réquisitionné un scooter avec une personne qui le conduisait pour poursuivre Romain qui était en voiture. Sur le fondement de cette loi, il a tiré sur Romain. Romain Cheneva est mort le 14 août 2018. Est-ce qu'un refus d'obtempérer mérite la peine de mort ?
Non.
Est-ce que le fait d'avoir peur de la police mérite la peine de mort ?
Non.
Alors cette loi, sachez-le, on n'en a pas assez parlé. C'est une loi liberticide et sécuritaire qui a été votée en 2017 pour que le policier qui a tué mon frère d'une balle dans le dos puisse bénéficier de la loi la plus souple qui a été promulguée en février 2017.
C'est un peu compliqué de prendre la parole, mais... Aujourd'hui, on est venu en tant que victime, réellement victime, même si aux yeux de la loi, Nordine est coupable et moi, juste un dommage collatéral. On a vécu un drame, il n'y a même pas un an, à Stein. On rentrait tranquillement à la maison. Sur la route, une voiture s'est arrêtée et on a eu peur. Il était 1h du matin, trois hommes, dont un avec casquette, une avec une casquette, a commencé à approcher du véhicule et on a eu très peur. Nordine a voulu nous protéger, Nordine a voulu partir, sauf que ça a été confirmé comme un refus d'obtempérer. La voiture était à l'arrêt, on nous aura tiré dessus. Nordine a pris 7 balles, j'en ai pris une. Mes organes vitaux ont été touchés, j'ai failli mourir. Nordine a été très très gravement touchée. À l'issue de cet accident, Nordine est... Après son audition, incarcéré directement. Il passe en comparution immédiate. Il prend 2 ans de prison. L'avocat Maître Boussou fait appel. On lui accorde la liberté le temps de l'appel. Ce mardi-là, on se rend à la cour d'appel. On se rend à la cour d'appel. La cour d'appel ne juge pas nécessaire de visionner les vidéos qui ont été prises le jour de l'accident. On voit concrètement la police agir comme des cow-boys sur nous. L'avocat comprend tout de suite que son client va être forcément mis derrière les barreaux ce soir et demande le renvoi de l'appel avec le visionnage des caméras. Après le délibéré, ils acceptent. Aujourd'hui, on est là, en apparence bien, et on est traumatisé à vie. Nordine a pris 2 ans de prison pour être puni. Mais n'est-il pas déjà assez puni d'avoir été mutilé comme il a été mutilé? Alors oui, les cicatrices ne se voient pas, mais je vous assure.
Bravo.
J'aimerais juste parler de cet article L435-1. Qui autorise les policiers à tirer sur un véhicule.
Voilà, je vois.
On n'est pas un véhicule, on est des êtres humains. Ils auraient pu tirer sur les roues. Non, ils ont tiré directement sur nous. Et comme j'ai pu l'entendre dans différents témoignages, ils ont tiré dans les organes vitaux, le cœur, les poumons. Vous avez raison, rétablir cette loi, c'est rétablir la peine de mort. Merci beaucoup. Le 11 octobre prochain, Nordine passe à la cour d'appel. On compte son bloc soutien. Venez nombreux, venez nous soutenir. Aujourd'hui, on est là, on peut témoigner. Beaucoup n'ont pas cette chance. On veut devenir leur porte-parole parce que ça nous est arrivé, mais ça peut arriver à tout le monde.
Thank you.
Voilà donc pour ces déclarations enregistrées samedi dernier. Donc retour dans les Amis d'Orwell, une émission concernant les crimes policiers. Et donc le samedi dernier, donc il y avait donc ce rassemblement République avec ses prises de parole des femmes, hein, des femmes, des sœurs combattantes qui sont là tout le temps à chaque rassemblement pour défendre la mémoire de leurs proches. Vraiment à mal. Il y a donc Aurélie Garand. Donc le dernier témoignage, c'est donc ce couple canardé complètement littéralement par les flics, et donc Nordine, le conducteur qui passe en procès en appel bientôt le 11 octobre. Et donc Aurélie Garand, on l'a entendu, elle est très... elle porte la voix, elle la rage quoi. Et donc Aurélie Garand, son frère est mort il y a 5 ans exactement, dans le Loir-et-Cher, battu par le GIGN. Il a pas regagné la prison parce qu'il avait une tournée de permission. Mais évidemment, là aussi, c'est pas du tout la peine de mort n'a pas été rétablie pour ce type de délit. Pourtant, il a été abattu dans un petit cabanon, dans la propriété de ses parents. Abattu, elle dit exécuté, parce que clairement, les conditions sont celles-là, quoi. Et, alors, juste un petit mot à propos d'Aurélie et d'Angelo Garand. Donc, cette enquête, là aussi, s'est terminée de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un non-lieu qui a été très vite prononcé, 2 ou 3 ans, je crois, même pas.
Oui.
Confirmation, appel et cassation. Donc, il n'y aura jamais de procès dans son affaire. Et justement, il y a un groupe qui vient de se constituer récemment, le groupe d'enquête indépendant, le GENI, G-E-N-I, qui s'est constitué il n'y a pas longtemps. C'est pour l'instant une association, mais qui a pour but de creuser en profondeur, de faire une contre-enquête en profondeur sur une affaire précise. Donc à cette occasion-là, c'est l'affaire de Angelo qui a été décryptée par le GENI. Donc il y a eu déjà des premières conclusions préliminaires qui ont été révélées le 30 mars cette année. Qui montre déjà qu'il y a eu falsifications nombreuses dans cette affaire, et que notamment la chronologie, puisqu'il était battu de 5 balles, comme Aurélie l'a rappelé dans son intervention, 5 balles dans le torse, qu'il était caché dans une remise. Les gendarmes prétendent qu'il avait un couteau à la main. Ça aussi, c'est pas du tout établi, mais c'est vrai que le travail du GENI qui a été partiellement révélé récemment, montre bien que la chronologie des tirs n'a pas été la même que celle de la version des gendarmes, et que finalement la légitime défense, qui d'abord était justifiée par le fait qu'il y ait eu un coup fatal à la fin, le 5e tir, n'est pas du tout le cas, et qu'il y a eu aussi pas mal de manquements dans l'enquête. Il y a eu notamment des incohérences dans l'analyse balistique des tirs en question. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette présentation, au mois de mars, Aurélie et une autre de ses sœurs, Angelo, qui était là, elle a parlé après la présentation. Elle a été très émue justement par le fait de voir, après une démonstration très scientifique, hein, parce que c'est un travail très rigoureux qui a été effectué par le groupe d'enquête indépendant, pour justement montrer que il y a aussi un effort particulier sur la modélisation des scènes en 3D, sur le petit espace du lieu du crime. Et Aurélie était présente, et elle était très émue de dire que finalement, c'était, après ces explications, ça se rapprochait réellement de la vérité, et qu'il fallait pas attendre de la vérité judiciaire qu'elle éclaire ce type d'affaire, quoi. Et que heureusement qu'il y a des groupes, des organismes qui se constituent, pour justement éclairer d'une autre manière la vérité, qui de toute façon n'apparaîtra jamais avec la justice, quoi.
Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de vérité que de justice.
Exactement. Voilà.
C'est Aurélie. C'est vrai qu'elle a, dans la salle, elle a dit, bah, maintenant je sais la vérité. Mmh. Et c'était quelque chose d'important pour elle. Elle dit, pour nous, c'est important. On savait qu'on n'aurait pas eu justice, mais on voulait savoir comment ça s'est passé. Et je pense que c'est important, justement, ces groupes d'enquête qui permettent aux familles de pouvoir, après, parce que je pense qu'après avoir, on peut faire son deuil après.
C'est ça.
Après avoir eu la vérité. Et c'est important, c'est pour ça que le réseau, on parle de réseau, on parle d'être unis, on travaille ensemble pour justement
permettre à ce que les familles puissent se ressourcer, puissent repartir. En fait, elles puissent faire leur deuil. Mmh. Et c'est un travail, le génie, c'est un travail important.
C'est vrai que parfois, le procès en lui-même peut être un moment, effectivement, où l'histoire touche à sa fin, même s'il n'y a pas de condamnation, même s'il n'y a pas de reconnaissance totale qu'il y a vraiment une injustice et donc une victime qui n'aurait pas dû mourir. Mais c'est vrai que ce travail fait dans un cadre à la fois très sérieux,
rigoureux,
je dirais scientifique, oui, parce que enfin c'est de la manière de, et c'est pas une contre-expertise, surtout pas, hein. C'est pas ce groupe, il l'a dit très bien depuis le début, ils ne sont pas des experts judiciaires, ils ne deviendront jamais, donc ils ne travailleront jamais au service d'un procureur ou d'un juge d'instruction, parce que l'idée c'est vraiment d'être au service de la famille pour avoir cette part de vérité qui leur appartient et qui, même avec un procès, ne l'aurait jamais rendu, en fait. Il y a une dépossession de leur histoire qui est totale, du début à la fin. Que ce soit avec un non-lieu, que ce soit avec un procès, même si dans un procès on peut s'exprimer, on peut amener des éléments, mais finalement, la justice est une machine qui apparaît sans faille et qui ne laisse que très peu de place, finalement, à ces moments de répit, finalement, où une famille peut dire effectivement, ok, j'ai compris, je vois un peu mieux ce qui s'est passé, et il y a une part de vérité qui ne m'est pas imposée par l'ordre dominant, l'ordre policier, quoi.
L'ordre policier. Le procureur, il veut une histoire qui aille bien, en fait, pour l'État. Mais donc ne pas condamner les policiers, pour lui, c'est une priorité. Et après, quand il n'a pas d'autre choix, bah, il laisse filer. Mmh. C'est pour ça qu'il faut un rapport de force à chaque fois, à chaque affaire. Il faut mettre en place un rapport de force qui permette justement à ce que le procureur, il sente qu'il va falloir faire attention aux pièces. Qu'est-ce que je fais de ces pièces? On voit bien avec l'affaire Adama Traoré, où le procureur, il avait menti sur ses conclusions dès les premières heures.
D'ailleurs, dans l'affaire d'Angelo, c'est pareil. Hein.
Oui.
Dans les heures qui suivent la mort d'Angelo, donc suite à l'opération du GIGN, il a tout de suite menti sur les circonstances de comment ça s'est passé, quoi. Immédiatement.
Et ce qui a permis, en fait, le rapport de
force. En parlant de légitime défense, alors qu'effectivement.
C'est ça, ouais. Il n'y a pas de légitime. Enfin, nous, on a vu.
Cinq balles dans le corps de quelqu'un qui est caché dans une remise.
Caché,
qui,
oui.
Qui est soi-disant, qui est menaçant, face à cinq armures énormes.
Il va agresser cinq policiers.
Face à un fusil à pompe, trois armes à feu, deux tasers.
On peut pas.
Ouais, c'est la mise en
s'il
place.
S'il tombe, c'est parce qu'il meurt. Il tombe pas parce qu'en fait, dans l'histoire, en fait, les gendarmes font croire qu'il tombe. En fait, il avance parce qu'il est menacé en s'avançant, alors qu'en fait, il se prend des balles, quoi.
Il se prend un coup de taser.
Et des balles qui suivent, c'est pas.
C'est en tombant qu'il se fait allumer.
C'est en tombant qu'il se fait allumer, en fait. Donc je rappelle, je suis avec Christian et Laurent, semblés de blessés, des armes mollées, des personnes très concernées par les écarts, par la police, la méchante police. Laurent, toi, donc ton procès, le procès du flic qui t'a éborgné, qui a lancé une grenade de désencerclement il y a six ans, maintenant aura lieu au mois de décembre. Christian, toi, c'est ton fils qui a été atteint par un LBD en 2010. La procédure est encore en cours. Tu veux te dire un petit mot
Je veux dire, là, on est en appel. Et ça va faire.
De la procédure.
On est en pénale. Appel à la procédure civile.
Civile, c'est ça.
La procédure pénale est terminée.
C'est-à-dire qu'en fait, le policier a été
condamné trois fois. Ouais. Première instance, appel et cassation. L'agent judiciaire, parce que là-dedans, la question était sur la responsabilité. Et comme nous, on n'a pas réussi à voir l'Endurin.
L'Endurin,
le fameux connu.
C'est un syndicaliste.
Le couteau dans la gorge.
C'est un syndicaliste FO, non, c'est ça?
FO, oui.
Qui était
chef de groupe.
Chef de groupe au moment où il y a eu l'action des.
C'est ça. Et il rédige, en fait, et c'est. À l'appel, on le comprend bien, les juges le disent d'ailleurs, c'est du copier-coller, c'est-à-dire que tous les PV, en fait, sont quasiment identiques. Donc il y a une construction. Et il y a une construction, en fait, en bande organisée.
Pour falsifier, en fait.
Pour falsifier, pour mettre en examen, pour mettre en garde à vue Geoffrey, puisque
Landurin, à la fin de sa déposition, il dit qu'il porte plainte contre Geoffrey. Mmh. Et donc il s'avère que lui a fait un faux usage de faux en l'écriture publique. Donc en étant gradé, on sait très bien que c'est lui qui a
couvert.
Donc toi, tu as réussi à prouver dans le cadre de procès contre le flic qui a blessé ton fils, que justement il y avait dans la procédure, clairement, même si on s'en doute à chaque fois, qu'il y a eu un arrangement et puis donc des pièces qui ont été...
Oui, en appel, et ça a été... Enfin, on le savait
dès le départ. Ça a été jugé comme un faux, ça.
Mais non, ça, en fait, ça a été mis dans le compte-rendu du verdict. Mais nous, le policier Landurin, on a essayé de le mettre en examen en même temps que le flic. Et en fait, il est toujours resté témoin assisté. Donc, il a été protégé.
Alors que c'est prouvé, comme tu dis, que
c'est prouvé qu'il a fait un faux usage de faux en écriture publique. Mais vous savez, nous, l'agression, on l'a eu en 2 mois. La mise en examen pour agression, il a fallu attendre plus d'un an et demi pour avoir la plainte pour faux usage de faux en écriture publique.
Pour que ce soit instruit. Vous avez lancé...
C'est ça. Ça a été très très difficile de le lancer. Alors que c'est personnel, mais je pense que je suis quasiment convaincu. Je pense que il faut vraiment regarder les procès-verbaux des policiers. C'est ce qui permet en fait de pouvoir dire qu'il y a agression, il y a eu meurtre. Parce qu'à partir du moment où on fait un faux, c'est que nécessairement, il y a un problème dans la procédure pour blesser ou tuer. Mmh. Et donc, c'est très important. Nous, on dit souvent, regardez les PV. Et attention, on ne parle pas du PV de l'IGPN. C'est vrai que celui-ci, il n'est pas. Mais il y a un premier PV qui est fait dans le commissariat, dans son unité.
Après, c'est celui-là.
C'est ça ? C'est celui-ci, voilà. C'est celui-ci, en fait, qui fait commencer les choses.
Le policier doit raconter ce qui s'est passé dans la journée, notamment l'usage de l'arme qu'il a...
Voilà. Et généralement, là, ils se concertent. C'est comme pour Angelo, en fait, les 5 gendarmes se sont concertés.
Ils ont le temps de se concerter dans la remise quand ils ont assassiné... Voilà.
Donc,
et plus tard, après, avant d'être eux-mêmes entendus par...
C'est ça. C'est pour ça qu'il faut à tout prix regarder les procès-verbaux des policiers pour pouvoir trouver les failles. Et la faille de leur histoire. Parce qu'en fait, ils construisent une histoire à chaque fois. Et d'ailleurs, on s'aperçoit... Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que, parce qu'il y a des vidéos ou des témoignages, que la faille apparaît. C'est pour ça que, quand un quartier, il brûle, c'est parce qu'il y a la pression qu'on met sur le flic... En fait, pour justement, est-ce qu'ils disent, ça s'est pas passé comme ça. Et donc, il y a énormément d'affaires où on sent bien en fait que les flics mentent. Et toutes les procédures sont faites, enfin, même la justice, ils sont tous, enfin, toutes les pièces sont biaisées. C'est-à-dire que si ça va pas pour le procureur, en fait, la pièce, elle est. Il y a des vidéos qui manquent en sortie d'un scellé. Il y a des CD qui sont rayés en sortie d'un scellé. D'un
comme
scellé.
Au Pont Neuf, ces dernières histoires. On retombe toujours sur cette construction.
Voilà, et c'est parce qu'il y a une vidéo et tout. Quoi. Et c'est bizarre, sur 4 morts, en fait, il n'y a pas de légitime défense. Alors ça veut dire que quand il n'y a pas de témoin, posons-nous la question. Mmh. Et c'est ça qui est important.
Témoin, c'est plus facile.
C'est plus facile pour les flics. On dit, ben voilà, parce que le juge ne juge que sur une chose, le procès verbal du policier. Mmh. Si on ne peut pas détruire le procès verbal du policier, la procédure, elle est morte. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important. En fait, nous, on dit vraiment à tous les blessés, tous les gens qu'on va faire à la police, c'est il faut disséquer le procès verbal et attaquer pour faux usage de faux en écriture publique.
Donc, tout à l'heure, nous parlions d'un article qui a l'air central. Qui est central, c'est vrai qu'il n'y a pas que celui-là. Donc le 435-1, le code de la sécurité intérieure, on le rappelle, qui donc réglemente l'usage des armes, qui donc donne aux policiers un droit supplémentaire par rapport à ce qu'on appelle la légitime défense. Mais il ne faut pas oublier que depuis quelques temps, régulièrement revient une proposition qui irait complètement alourdir tout ça, et même arranger beaucoup de choses, c'est donc de créer cette fameuse présomption de légitime défense, dans le cadre d'usage de l'arme ou de mort entraînement de la police. Donc là, il s'agirait tout simplement de renverser la charge de la preuve. Donc là, c'est un processus complètement inéquitable, ce qui est a priori interdit par la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça, évidemment, tout le monde s'en fout dans les tribunaux français. Et donc là, voilà, la présomption de légitime défense est donc partie du principe que dès qu'il y a mort de quelqu'un, ou même mutilation ou agression venant de la police, par définition, c'est légitime. Et donc, ce serait à la victime de prouver qu'il y a illégitimité. Donc là, on renverse complètement tout, quoi. C'est que... Hein, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Laurent, de cette espèce de renversement, là, encore.
Bah bon. C'est hallucinant, quoi, en fait. C'est-à-dire que, depuis le départ, en fait, même avant la L435-1, c'était... Enfin, moi, je trouve que... Déjà, comme Maurice le relatait...
Maurice Rachfus.
Maurice Rachfus, pardon. C'était, et depuis toujours, c'est en fait, il y a des crimes policiers, il y a des mutilés, et il n'y a pas de procès derrière.
Ouais.
Et donc, déjà, la légitime défense qui était toujours avancée, avec cet argument toujours, oui, je me sentais menacé, enfin voilà, des choses... Et qui passaient, quoi. Donc déjà, de fait, il n'y avait pas de procès. Là, L435-1 vient en plus... créer une loi qui dit bah maintenant on peut tirer, il n'y a pas de problème, c'est légitime déjà. Donc déjà, c'était rajouter en fait, rajouter une loi pour leur autoriser de tirer alors qu'ils étaient déjà pénalisés. Et en plus, rajouter maintenant une présomption, ça veut dire qu'en fait, non seulement ils ne vont pas aller au procès, mais maintenant en plus... Et on le voit bien, en plus, ils ont même plus à se justifier, quoi. Mmh. Et la mise en examen qu'il y a après une mort ou après une blessure comme ça des policiers, en fait, qui fait partie de la procédure, c'est-à-dire que tout ça, quand ils manifestent après le Pont-Neuf, ils disent non, mais là, c'est fini, il faut arrêter. Ils se sont fait agresser, ils se sont fait foncer dessus. Maintenant, on sait que c'est pas vrai. Mais voilà, non seulement avant ils n'étaient pas punis, ils n'allaient pas en prison, il n'y avait pas de procès, mais en plus maintenant on dit ah non mais il s'est rien passé quoi. C'est aux victimes de dire.
Là, il n'y a même pas de procédure.
Il n'y a même pas de procédure. Il y a même plus
là, on
besoin.
Élimine la.
Voilà. Ça va être quatrième page des faits divers.
De vérité judiciaire qui y reste. Voilà. Donc, la procédure n'existerait même pas. Quoi.
C'est absolument. C'est de pire en pire. On se dirige tout droit vers l'état policier. Ouais, enfin, on y était déjà bien, mais là.
Mais là, ouais, ça serait. Oui, c'est l'état sans justice, en fait.
Je rajouterais, en fait, un truc. J'ai comme un doute, parce que... Ouais, bon, un peu, je travaille beaucoup. Enfin, je piste, en fait, le fric. Et donc, là...
Suivez l'argent,
ouais. Je pense que c'est important, si on veut comprendre une proposition de loi. Et là, cette loi, ce qui est bizarre, c'est que l'inversion de la preuve, ça voudrait dire que la victime doit, en fait, chercher la preuve et donc payer. Et c'est parce qu'en général, c'est la justice qui, en fait, ordonne les expertises, qui ordonne. Mais là, si l'inversion de la preuve, ça veut dire que c'est à la victime, en fait, d'assurer, en fait, les expertises quand on sait que ce sont des milliers d'euros.
Ouais.
Et donc là, ça permettait tout de suite aux familles de dire...
Avec des personnes qui sont habilitées par les cours d'appel, donc forcément qui sont en connivence et qui sont dans une forme de mécanique... très bien huilé, quoi, finalement.
Ouais,
donc,
c'est pour ça que c'est...
Mais que surtout,
je me pose la question, j'ai pas de réponse à ça, mais j'ai comme l'impression qu'on veut encore étouffer les familles par cette matraque financière.
Il y a déjà beaucoup, effectivement, de familles, de victimes qui jettent l'éponge du fait des frais de justice que le policier lui-même n'a même pas payé.
Ouais.
Et qui...
Il faut rappeler qu'il bénéficie de la protection fonctionnelle. Donc, en tant que fonctionnaire, donc toute la procédure est payée par le ministère de la Justice.
De fait.
Et qui est parfois, de temps en temps, lorsqu'il est condamné, il doit régler une partie des intérêts civils, notamment. Oui, donc ça, c'est...
17 millions.
Et donc,
en 2022.
Donc ça, c'est 17 millions, on se rappelle, c'est le budget...
C'est la protection fonctionnelle des policiers.
De l'intérieur.
Voilà, c'est
par an.
Dans le budget, par an. Enfin, chaque année, c'est budgété. Il y a quelques années, c'était à 13 millions. On voit bien que ça augmente. Et là, on en est à 17 millions d'euros pour, en fait, donc la protection fonctionnelle, c'est-à-dire pour les avocats.
Pour les avocats.
C'est les cabinets, il y a 3-4 grands cabinets d'avocats qui se partagent le gâteau. Hein.
Ouais. Mais alors, c'est pas fini, Christian, parce que tu vas fouiller là dans les recoins du droit et tu nous trouves des trucs hallucinants. Il y a aussi, tu as repéré une autre proposition de loi, enfin, une proposition de loi qui a été. Qui ressort régulièrement. Donc, proposition, il faut rappeler que ça émane de députés ou de sénateurs. Ça n'émane pas du gouvernement qui, lui, fait des projets de loi. Donc, c'est beaucoup plus rare qu'une proposition de loi parvienne, finalement, à être votée et à entrer en activité. Mais c'est quand même le signe, hein, d'une volonté politique qui, un jour, ça va marcher. Vas-y, raconte.
Oui, c'est pour ça que je dis que le légalisme a quelque chose de vraiment sournois de nos jours, parce qu'il sert réellement à contraindre et il sert à enfoncer la population. Et là, pire pour justement les victimes, il y a eu trois fois, une fois à l'Assemblée nationale et deux fois au Sénat. Il y a une proposition de loi qui tend à interdire aux auteurs de crimes et de délits et de délit. Mmh. C'est pour, de délit. Et leurs ayants droit, si on est mort, de se porter partie civile contre leurs victimes ou contre les forces de l'ordre.
Ou contre les forces de l'ordre.
Et ça,
c'est... qu'est-ce que c'est qu'une partie civile, en fait,
c'est... La partie civile, c'est quand le procureur, en fait, veut classer l'affaire.
Ouais.
On peut se porter partie civile. Et à ce moment-là, on fait, une demande au doyen des juges, mm-hmm. qui est une procédure payante.
Ah oui, c'est, ça, c'est la constitution de partie civile.
La constitution
une plainte avec constitution de partie civile. Une demande formulée au doyen des juges de chaque barreau.
C'est ça.
Lorsque, effectivement, le procureur, qui, encore une fois, n'est pas indépendant, mais pourtant qui peut décider d'instruire et de classer une affaire, et donc le seul pouvoir d'un citoyen, d'un justiciable, lorsque le procureur classe l'affaire et que, finalement, il n'est pas d'accord avec sa décision, c'est de faire cette procédure de plainte avec constitution de partie civile, donc pour être, en tant que victime, acteur de la nouvelle plainte. Et donc là, ce serait au doyen du juge de désigner un juge d'instruction contre, donc, l'avis du procureur en question, pour qu'une enquête soit menée malgré son refus. Et effectivement, il faut rappeler que lorsque le justiciable use de ce droit, il faut qu'il paye une consignation. C'est une somme qui est mise dans un coin, qui éventuellement lui sera rendue, je crois, c'est ça, ou, bah, sinon ce ne sera pas une consignation.
Oui.
Et donc, voilà, et donc avec cette somme d'argent, qui est comme une espèce de caution, le doyen des juges donc, doit désigner un de ses collègues pour aller travailler sur l'enquête.
C'est ça.
Généralement, c'est aussi mal fait que la première, oui. D'accord. Mais en même temps, là, ce qui voudrait dire que les députés sénateurs seraient prêts à donc interdire ce type de procédure,
oui.
Pour que dans les cas qui nous occupent aujourd'hui, ça s'arrête au niveau du procureur et qu'il n'y a même plus, non seulement de procès, mais plus d'instruction, plus de procédure.
Voilà.
Là, il y aura vérité judiciaire zéro. Au moins, ce sera peut-être clair. Depuis le début, comme ça, personne ne pourra plus se mettre le pied dans le tapis ou se bercer d'illusions. Ce sera clair, il n'y aura pas de procédure.
C'est ça. Et actuellement, il y a des vices, puisque ça ne passe pas, mais on s'aperçoit, en fait, qu'au Conseil constitutionnel, en fait, on est en train de changer des têtes. Et
ouais.
C'est,
bah oui.
Assez,
ouais,
c'est assez pernicieux, en fait, quand on sait d'où ces personnes viennent.
Mais ils sont neuf, hein, faut rappeler, il y a un président, mais
c'est là, il y a deux nouvelles personnes.
Les anciens ministres, qui ne sont pas forcément des juristes, d'ailleurs, des fois, ce ne sont même pas des juristes du tout. Comme Gouraud, non, c'est pas ça. C'est
Gouraud pas qui a géré les préfets depuis, qui gère
qui
les préfets.
Qui a été ministre de la fonction publique et tout ça.
Voilà, et qui a.
Et c'est le conseil qui, c'était raison de rappeler, c'est eux qui sont chargés de dire si telle loi, proposition ou projet de loi qui est votée, une fois qu'elle est votée, peut être entrée en application selon les respects des textes constitutionnels, donc ce qu'on appelle la loi fondamentale. Mmh. Effectivement, et donc tout ça est très subjectif, que c'est voilà, c'est
de l'interprétation,
quoi. Voilà. On peut imaginer qu'un jour, ce type de proposition, oui. Pour interdire cette procédure qui est la seule aujourd'hui qui a apporté des victimes qui ne sont pas écoutées par le procureur, donc ils ne pourraient même plus finalement.
Et la deuxième personne.
Avoir cette deuxième chance, en fait, c'est tout ça.
Hein. Et la deuxième personne au conseil, qui vient de passer au Conseil constitutionnel, c'est la compagne du directeur général de la police nationale. Et elle a été chef de cabinet du ministre de la Justice.
Malbec. Voilà.
Et voilà, ce sont des petites mains, en fait, qui justement. Font en sorte
que la machine reste
bien, voilà. Elle reste bien. Oppressive, bien répressive, et on est en train, parce qu'on voit souvent, en fait, on nous parle de Trump aux États-Unis, ouais. Qui l'a placé et tout, mais il faudrait peut-être regarder en France, en fait, il se passe des choses depuis quelques années, et en sous-marin, ouais. qui se mettent en place, et si on peut reculer, on pourrait dire que ça a commencé à se mettre en place avec la loi Pasqua en 94 sur l'aménagement du territoire. Il faut savoir que les policiers maintenant, enfin la police, a son droit de regard sur l'urbanisme depuis 2010.
Ouais. Et que pour chaque projet,
il faut qu'il y ait plus, s'il n'y a pas que la signature des pompiers maintenant, c'est
les études de sécurité, les audits.
Voilà.
On a parlé souvent dans cette émission, je me souviens.
C'est très important, en fait, d'aller pister les couloirs de l'Assemblée nationale, du Sénat, parce que tout se passe là, rien ne se passe à l'hémicycle. Tout est dans les couloirs.
Qu'est-ce qu'il y avait ? On n'a pas beaucoup de temps encore, en 10 petites minutes, on va rappeler les rendez-vous.
Oui.
Les rendez-vous qui nous attendent autour de Paris demain.
Si, je voulais dire, il y a deux procès.
Ouais.
Le procès de Soufiane, justement, qui a été poursuivi en...
Eh ben merci Monique, une fois de plus, dans notre vie commune, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste depuis 40 ans d'ailleurs, sans Dieu ni maître, et Urbi comme Orbi, sans publicité ni sponsor. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, c'est métro République, au fil du calvaire. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h. On est bien sûr Onde de choc, le dernier comptoir où l'on cause. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Virginie Dilici. La carrière va partir en flèche, ou alors je ne sais pas comment ça va se passer. La carrière, ça va être terrible. Hey. Ça, oui, et bah, celle d'Adilio Chahi. Hein. Bonjour, oui. On se connaît.
C'est vrai qu'avec Arton, on fait des grandes carrières.
Grandes carrières avec Arton. Et bien sûr, comme toujours, à la technique, bah, Monique. Il n'y a aucun problème. Bonjour. Depuis tant d'années. Bonjour, Monique. Alors, on est là pour parler du débat du cœur. Hein, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Hein. Colette Thomas, Antonin Artaud. Alors, c'est au Théâtre de la Talente.
Tout à fait.
Jusqu'à quand, Virginie ?
Jusqu'au 23 décembre, c'est-à-dire jeudi.
Jeudi. Les horaires ?
Alors, ce soir et mercredi à 20h30, relâche le mardi, et jeudi pour la dernière à 19h.
Alors, quand on arrive sur cette place Charles Dullin, oui. On est déjà dans le théâtre.
Absolument.
Parce que je ne sais pas si le nom d'Alexandre Tronner, ça vous dit quelque chose. C'est celui qui a fait les décors des Enfants du Paradis et oui. d'Hôtel du Nord.
Magnifique.
Et d'Hôtel du Nord. Et on a l'impression d'assister à un décor de théâtre. Premièrement, deuxièmement, c'est quand même la place Charles Dullin. On est en plein dans le théâtre.
Absolument.
Hein? Le Théâtre de l'Atelier.
Le Théâtre de l'Atelier. Charles Dullin, je ne sais pas si vous savez aussi, vous avez souvenance, c'est dans le film Quai des Orfèvres, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, c'est le monsieur bossu qui fait un vieux satyre qui photographie les jeunes dames. Ça vous dit rien ?
Moi, ça ne me dit rien, mais je vais voir le film.
Faut le fuir, oui. Les jeunes dames sont charmantes, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et là, on contourne, et on arrive à La Talente. Et La Talente, on est encore dans le poème, parce que c'est bien sûr le film de Jean Vigo. Cinéaste anarchiste, l'auteur de Zéro de conduite, et puis surtout de La Talente. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, La Talente, le
Tout
film,
fait,
non
sûr,
On voit Michel Simon dans Le Petit Matin qui se roule avec ses tatouages et sa graisse sur le pont de la Péniche. Et on est dans la féerie absolue. Alors, Virginie, moi je suis venu vous voir hier. La salle était pleine, d'ailleurs, c'est bien. Et juste avant de partir, de quitter mon domicile, il s'est passé un petit événement comme ça. J'ai reçu un coup de téléphone et je dis j'ai pas le temps, je vais au spectacle. Et là, je me reprends, je me dis le terme, c'est comme on dit dans la conversation, le terme ne va pas. Et je dis, bon, ben, je vais au théâtre. Et j'ai eu confirmation de mon hésitation à la fin de votre spectacle, tout simplement, parce que lorsque la scène est devenue noire, il n'y a pas eu un bruit, il n'y a pas eu d'applaudissement. Et moi-même, je ne voulais pas applaudir. Je voulais pas applaudir. Il a fallu que quelqu'un applaudisse avec un peu d'insistance derrière pour faire comprendre que c'était fini. Mais c'était tellement une confession allant jusqu'à la cruauté et l'impudeur, faut dire les termes, que j'avais pas du tout envie d'applaudir.
Tout à fait. Et bon, cet espace-temps de noir et de silence qui tombe comme un couperet. C'est un moment qui appartient pleinement, je pense, à la pièce, qui est une sorte d'écho, de chambre d'écho de tout l'accord jeté de ce qu'on vient d'entendre et qui résonne une dernière fois dans l'esprit et dans l'espace.
Si on n'avait pas applaudi, si personne n'avait applaudi, ouais, ça pose problème ou pas ?
Non, pas du tout. Disons que dans mon parcours théâtral, qui devient long maintenant, et que je mène avec Jean-Marc Musial, qui est l'auteur de la mise en scène, nous avons donc une compagnie qui s'appelle, j'aime pas tellement le mot compagnie, mais bon, un laboratoire ou que sais-je, un studio, qui s'appelle Terribilita. Bref, pendant très longtemps, on ne saluait pas. Alors, ça posait toujours plein de problèmes. Comment ça, ta-ta-ta-ta. Bon, alors là, on a décidé quand même que je vienne saluer avec Bacom si les applaudissements se manifestent, dans un souci de vraiment de partager. Parce qu'en fait, là, vraiment, les gens qui font l'effort de se déplacer, surtout dans cette période, d'assister à une pièce dont ils savent que le sujet va être quand même Vous savez si ce n'est ténébreux, en tout cas assez costaud, et que c'est un véritable effort, et que donc là, on partage le moment. Donc les applaudissements, moi, ils s'adressent plus à Colette Thomas, à la notion de théâtre qu'on est en train de vivre, etc.
À la fin de sa vie, Ferret ne voulait pas qu'on applaudisse.
Ah,
il partait en mettant un doigt sur sa bouche, comme ça, et il refusait qu'on applaudisse. Mm-hmm. C'est magnifique, hein. Moi je trouve c'est magnifique. Donc, on devait aussi avoir aujourd'hui celui qui fait le prologue.
Pas comme tellement.
On lui en veut tellement beaucoup de ne pas être là.
Non, il ne faut vraiment pas lui en vouloir.
Surtout que c'était brillant, et j'avais préparé, comme je ne suis pas un béni oui-oui, un petit reproche à lui faire.
Alors, invitez-le.
Je vais l'inviter.
Et en plus, pour l'enquête infinie, vous avez beaucoup de choses à vous dire.
On va l'inviter. Un tout petit truc. Alors, je me suis posé la question, honnêtement.
Oui.
Si c'est moi qui n'ai pas saisi, s'il l'a oublié intentionnellement, parce qu'il y a une petite ambiguïté que Kilios relève dans son débat, bon lapsus, l'anarchiste courroucé. Quand il parle de la séance de 1946, au théâtre Sarah Bernhardt, c'est celui qui est en face de notre Châtelet actuel, lorsque Artaud revient. Bon, il en parle très bien d'ailleurs. Il y a un tout petit détail qu'il ne dit pas, ou qu'il dit, c'est à vous de le savoir, Virginie. Il ne dit pas qu'Artaud, à ce moment-là, est resté dehors.
Alors, il ne l'a pas dit peut-être ce jour-là, parce qu'il faut savoir que la prise de parole de Pacôme est modifié un petit peu chaque jour, parce qu'évidemment il y a une trame, il y a toute la recherche qu'il a menée pour reconstituer le parcours et le portrait de Colette Thomas, il a écrit la postface à la réédition, mais malgré tout sur le moment il se détache de son texte écrit et il nous raconte cette histoire. Alors parfois certains éléments apparaissent, d'autres disparaissent. Voilà, ce soir-là, hélas, mais alors d'autres soirs, il l'a évoqué. Et d'ailleurs, nous avions eu cette discussion à ce sujet-là, qui est quand même un élément extraordinaire.
Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai reçu pas mal d'invitations sur des spectacles concernant Antonin Artaud, comme je racontais tout à l'heure hors antenne. Je suis allé voir deux personnages dans un squat avec des guitares électriques, c'était vraiment électrique,